Europe Soir, le 18-20, Julien Bouchet.
18h30, tout pile, le rappel des titres avec Christophe Lamar.
C'était l'une des agglomérations pilotes. La campagne de dépistage massive menée au Havre est une déception. 10% de la population seulement a pratiqué un test de dépistage du coronavirus en 6 jours. Le Brexit, le négociateur européen Michel Barnier se dit prêt à discuter jusqu'à la fin de l'année et même au-delà avec la Grande-Bretagne. À moins de 10 jours d'une sortie définitive des Britanniques, les négociations butent toujours sur le dossier de la pêche. L'armée malienne accusée d'avoir commis des crimes de guerre pendant le conflit qu'il a opposé à des rebelles et des djihadistes dans le nord du Mali. Conclusion de la commission d'enquête internationale de l'ONU qui a enquêté sur la période 2012-2018. L'auteur présumé d'une série d'agressions dans la Loire interpellé, il avait violemment agressé 8 conductrices de bus en un mois. Les policiers l'ont arrêté à son domicile il y a 1h30. Il est actuellement en garde à vue et pour les enquêteurs, il s'agit probablement de l'homme recherché activement depuis le début des agressions. Enfin, Engie fixe la hausse des tarifs réglementés du gaz au 1er janvier prochain. Ce sera plus 0,2%.
Et ben encore une bonne nouvelle. Merci Christophe Lamar. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 19h. La météo, attention au vent. Tiens, voilà une autre bonne nouvelle. Du vent, du froid et du mauvais temps pour demain.
Hein. Ouais, demain, ça se couvre effectivement. Nous allons avoir beaucoup de pluie avec le passage d'une nouvelle perturbation, notamment sur la moitié nord. Et le vent, vous le disiez, Julien, à partir de demain après-midi et jusqu'à demain soir, un gros coup de vent est attendu sur la Bretagne avec des rafales à plus de 100 km/h, notamment du côté de Belle-Île-en-Mer où les traversées maritimes seront compliquées demain. Donc une nouvelle perturbation traverse le nord. Sur la moitié sud, le ciel va se couvrir avec toujours beaucoup d'entrées maritimes au bord de la Méditerranée, des averses dans la vallée du Rhône. Les températures toujours très douces demain, 3 à 12 degrés le matin et 13 à 20 degrés dans l'après-midi avant une nette baisse des températures pour jeudi.
Et peut-être la neige, j'y
et
tiens, parce que ce sera le cadeau de Noël pour tous les Français. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure à 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
18h32, le débat des grandes voix du mardi avec ce soir à mes côtés Eric Scholl, directeur de la rédaction de L'Express. Bonsoir Eric.
Bonsoir.
Sophie Dravinel, grand reporter au service politique du Figaro. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, on va évidemment parler avec notre ami Eric Scholl de L'Express de cette incroyable, de cette grande interview du chef de l'État, une douzaine de pages quasiment dans laquelle il s'explique très en longueur sur tout un tas de sujets. On y reviendra dans quelques instants évidemment avec vous Eric. Je voudrais simplement avant cela évoquer cette polémique car le gouvernement est peut-être en train doucement mais sûrement d'instaurer un passeport sanitaire avec vaccination obligatoire. C'est un projet de loi qui suscite la controverse. Le texte est porté par le gouvernement, il est très clair. L'idée est donc d'instaurer un régime de gestion des urgences sanitaires dans lequel les déplacements et l'accès à certains lieux ou modes de transport seraient conditionnés à l'administration d'un vaccin. Olivier Véran s'en est d'ailleurs expliqué aujourd'hui, on l'écoute.
Il y a un article, oui, qui dit que les libertés de mouvement dans certaines situations pourraient être corrélées au fait d'être soi-même protégé contre une maladie ou parce qu'on est immunisé naturellement ou parce qu'on a été vacciné ou parce qu'on prend un traitement, etc. Donc c'est un cas de figure très large. Je le redis, la vaccination contre le Covid-19 n'est pas obligatoire. C'était un engagement du président de la République, du Premier ministre. J'ai eu l'occasion également de le rappeler.
Alors, ce n'est pas obligatoire, Louis Dragnel, mais c'est quand même une manière, pour être clair, de rendre la vaccination obligatoire sans le dire quand même.
Alors, en tout cas, c'est ce que disent les oppositions. Et les oppositions, dès qu'elles ont vu le texte de ce projet de loi, effectivement, sont ruées sur cet article en fait, qui les a heurtés. Et en fait, ce qu'il faut, c'est quand même revenir un tout petit peu en arrière sur en fait, d'où vient ce projet de loi et à quoi ça sert. En fait, l'idée du gouvernement, c'était de transposer dans le droit commun un certain nombre de dispositions qui sont prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Un peu de la même manière que lorsqu'on avait transposé les mesures des lois antiterroristes qui étaient exceptionnelles après les attentats dans le droit commun, justement pour éviter au gouvernement d'être obligé à chaque fois de solliciter les parlementaires pour prolonger l'état d'urgence et prendre un certain nombre de mesures exceptionnelles.
Mais précisément ce qui leur est reproché, c'est d'instaurer dans le droit des mesures liberticides.
Exactement. Et du coup, en fait, l'idée, enfin, ce qui a choqué un peu tout le monde, c'est justement cette possibilité qui pourrait être accordée au Premier ministre, dans certains cas, de effectivement limiter l'accès à certains lieux publics, à certains transports, si des personnes ne sont pas vaccinées. Et effectivement, du coup, ça contrevient complètement à l'engagement du gouvernement initial
qui avait dit pas de vaccin obligatoire.
Liberté totale de se vacciner ou de ne pas se faire vacciner.
Eric Scholl, quel effet ça peut avoir sur les citoyens qui entendent cette petite musique? D'ailleurs, même au sein du gouvernement, beaucoup admettent que le timing n'est pas le bon.
Bah oui, c'est forcément maladroit. On a entendu là à l'instant le taux de vaccination au Havre dans cette expérience qui a été menée. On s'aperçoit à quel point il y a déjà quand même une crainte. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il y a une appétence pour aller se faire vacciner. Et ce n'est pas ce genre de mauvaise communication. Je pense qu'il s'agit peut-être de mauvaise communication, ce qu'on a vu aujourd'hui dans la journée des ministres essayer de rétro-pédaler et d'essayer d'expliquer que ce n'était pas une privation de liberté, etc. Mais ce n'est pas ça qui va arranger les choses. Là, le gouvernement s'est mis une épine dans le pied. Il va falloir certainement faire de la pédagogie pour expliquer que non, il n'y a pas de privation de liberté. Non, les vaccinations n'est pas obligatoire. On vient d'entendre Olivier Véran là-dessus. En tout cas, c'est à deux jours de Noël.
Non, mais c'est vrai.
Ça donne une mauvaise impression.
C'est vrai, Sophie Dravinel, ça peut poser question quand même. Si demain, pour je sais pas quoi, pour prendre le bus, pour prendre l'avion, pour prendre le train, s'il faut présenter un passeport d'attestation de vaccin, voilà, c'est comme rendre la vaccination obligatoire d'une certaine manière.
Oui, c'est la rendre obligatoire. C'est pour l'instant, on ne sait pas exactement s'il s'agira de présenter un certificat de vaccination ou bien de...
Non, mais le texte du projet de loi le permet.
Oui,
après, le gouvernement décidera, mais le texte le permet.
Oui, voilà.
Et puis, qu'il est écrit aujourd'hui.
Le Parlement aussi, peut-être, si on peut prendre un peu... Si on peut tenir compte de ce que dit le Parlement un peu en ce moment, ce serait pas mal parce qu'il est vrai qu'on a le sentiment que le Parlement est un peu mis de côté. Et c'est d'ailleurs ce qu'a reproché le numéro 2, hein, LR Guillaume Pelletier, en disant que c'était une volonté de suspendre les libertés sans contrôle du Parlement.
Oui, c'est ce que dit aussi Marine Le Pen.
Je pense que les Français là-dessus sont, si je peux me permettre, un peu partagés. C'est-à-dire qu'effectivement, une majorité de Français, sans doute, est hostile à cela, mais il y a aussi quand même une inquiétude forte, on le voit bien avec cette troisième vague censée arriver. Et pour exemple, je regardais en arrivant un petit sondage qui a été fait sur notre site du Figaro, dont je fais un petit peu de pub, mais et ça vaut ce que ça vaut, parce que ces sondages, voilà. Mais il y a quand même moitié-moitié.
Oui, sauf que l'inquiétude n'est pas tout à fait corrélée au souhait de se faire vacciner. Il y a quand même 56% des Français qui ne sont pas très favorables à l'idée de se faire vacciner. Alors, Marine Le Pen, pour rebondir sur ce que vous disiez, Louis Dragnel, dit par exemple, c'est vrai, il ne peut y avoir de citoyenneté de seconde zone pour les individus non vaccinés. C'est profondément délétère et liberticide.
Et là-dessus, elle a raison, parce que de toute façon, ça crée une inégalité de droits. Et donc, de fait, moi, je suis convaincu que cette mesure, en fait, ne verra jamais le jour, à la fois parce qu'effectivement, ça a suscité l'émotion, et parce qu'en droit, en fait, vous ne pouvez pas imposer, en fait, cette inégalité entre ceux qui se vaccinent et ceux qui ne se vaccinent pas. Et donc, en fait, si vous vous vaccinez, alors qu'il n'y a pas de mesure contraignante, si vous vaccinez, vous avez accès à beaucoup plus de choses que d'autres qui ne se vaccinent pas.
Mais c'est
alors,
déjà
donc,
le cas,
en droit, ça ne passera pas.
C'est déjà le cas, si Sophie. Je peux me permettre, c'est juste pour lancer le débat. Chez les enfants, par exemple, il y a un certain nombre de vaccinations obligatoires. Et moi, pour parler de cas personnels, les parents qui ont des enfants jeunes voient bien que les entrées...
11 vaccins obligatoires chez les enfants.
Et les entrées en crèche sont conditionnées à ces vaccinations.
Absolument.
À l'école aussi, des activités...
Et puis il y a des pays où il faut être vacciné contre la fièvre jaune,
absolument,
par exemple, pour s'y rendre, en Afrique
ça.
Notamment.
Et donc, je ne sais pas, le débat reste ouvert.
Bien, et on continuera d'en parler, j'en suis sûr, mais c'est vrai que le Parlement va passer par là, donc le texte peut être aussi modifié, amendé, on l'imagine. On marque une première pause et on parle donc dans quelques secondes de cette grande interview que le président de la République a donnée à la rédaction de L'Express. On va vous la livrer en exclusivité avec le directeur de la rédaction de L'Express. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le débat des grandes voix du mardi avec toujours Éric Scholl, directeur de la rédaction de L'Express, Sophie Dravinel, grand reporter au service politique du Figaro et Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Alors ce soir, comme promis, en exclusivité, on va vous parler de cette grande interview du chef de l'État à paraître demain dans l'hebdomadaire L'Express. C'est une première partie qui vient d'être publiée. Le reste est à découvrir demain. On y découvre Emmanuel Macron qui se livre sur sa vérité, les troubles que traverse notre pays, la crise démocratique, la laïcité, l'identité à la française. Ce sont d'ailleurs des thèmes qu'il avait en partie abordés le 4 octobre dernier au Panthéon, souvenez-vous.
La République, c'est une transmission. Et la République est une volonté. Jamais achevée, toujours à reconquérir.
Voilà, alors c'est moins solennel évidemment dans L'Express, mais il rentre dans le détail, Éric Scholl. Peut-être un mot d'abord sur la manière dont vous avez obtenu cette interview.
Écoutez, voilà, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on essaye d'obtenir cette interview dans le cadre d'un grand numéro qu'on sort demain, qui est consacré aux Français, hein, être Français. Et on s'était dit, pour Emmanuel Macron, ça serait aussi le moment de pouvoir lui nous expliquer cette relation qu'il a avec les Français. C'est d'ailleurs le titre de cette interview, ce qu'il n'a jamais dit des Français, dans lequel il livre à la fois cette explication, cette analyse politique sur la France, ce qui fait ce que l'on devient français. Et on voit bien que ces thèmes-là reviennent régulièrement dans tous ces discours depuis quelques mois. On l'a vu arriver sur ces terrains, sur ce qu'on appelle le régalien, hein, ce qui n'était pas exactement ces terrains de campagne en 2017. Et c'est précisément toute cette analyse qu'il livre et ce qu'il a changé depuis 2017. Quel bilan il fait depuis ces trois années qui ont été marquées par... Évidemment, la crise des gilets jaunes, la crise aussi sociale, hein, on se rappelle des mouvements de grève. Et puis, et ça, il ne l'a pas décidé, ça lui est tombé dessus, comme à tous les dirigeants de la planète,
la crise
sanitaire depuis le début de l'année.
Alors, c'est un échange assez profond, hein, d'une douzaine de pages. C'est une très bonne interview, j'allais dire, de candidat à la présidentielle. Est-ce que c'est une bonne interview de président de la République, Éric Scholl ?
Je pense que c'est Laureline Dupont qui l'a rencontré quand même pendant une heure et demie. Et alors, dans des conditions...
Je ne parle pas de l'intervieweur, je parle de l'interviewé.
Partir un peu rocambolesque.
Non, mais c'est-à-dire qu'on
a réussi effectivement à obtenir de lui qu'il se livre réellement, à la fois sur ce bilan, mais précisément pour essayer. On le sent dans le bilan et on le sent dans l'action. On le lira demain. Il dit qu'il ne s'avoue jamais vaincu. Vous savez, il avait quand même été élu sur cette idée de réconcilier les Français. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, et lui-même en fait le constat, les divisions sont toujours fortes.
Éric, donc, je vous pose la question avec évidemment beaucoup de malice, mais c'est vrai qu'il pose beaucoup de constats sur les fractures françaises et d'intentions pour réenchanter l'esprit de la République. On a envie de lui dire, Monsieur le Président, vous êtes en poste depuis 3 ans et demi, Sophie Dravinel.
Absolument. Et puis, vous êtes en poste depuis 3 ans et demi et vous nous reportez 3 ans et demi en arrière ou même 4 ans à l'heure de la campagne. Parce que moi, je suis d'accord avec vous. On a vraiment l'impression que c'est un entretien de campagne pour 2022. Et en le lisant, j'avais l'impression...
Ce qui est peut-être le cas, d'ailleurs, au demeurant.
Oh, oui, ce qui peut être tout à fait le cas.
Vraisemblablement.
Mais... C'est un entretien de référence sur le plan politique pour lui, clairement.
C'est sûr. Mais moi, ce qui me semble, si je peux me permettre, c'est qu'on a l'impression de le lire lui-même. C'est-à-dire que quand il parle de ce peuple de paradoxes très politiques et perclus de passions contraires, on a l'impression qu'il parle de lui-même quand même. Parce que c'est en même temps, mais poussé à un point que je trouve presque paroxystique, comme si peut-être la fièvre dont il était victime quand vous avez réalisé son entretien...
Il était déjà malade quand vous avez réalisé
l'entretien. Oui, il était malade.
D'ailleurs,
l'entretien a été déplacé. Il devait avoir lieu le jeudi 17 décembre au matin.
Oui.
Et il a eu lieu finalement l'après-midi, lui étant à la lanterne, notre journaliste étant à l'Élysée.
Il veut plaire
Sophie.
À tout le monde.
Oui.
Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que je trouve que c'est la grande faiblesse de cet entretien, si je peux me permettre, parce qu'il y a aussi des choses tout à fait passionnantes. Mais c'est que c'est vraiment tout et son contraire. Alors on sent évidemment que politiquement, il craint peut-être le détachement d'une partie de son aile anciennement UDF ou socialiste qui pourrait, je ne sais pas, venir vers un autre candidat que lui-même.
Oui.
Et en même temps, il est dans cette vision républicaine avec des adresses à Chevènement qui doit être très flatté d'ailleurs de cette amitié et de cet honneur que l'autre que le président de la République lui accorde.
Chevènement, c'est une bonne référence en la matière.
Oui, absolument, mais ça devient c'est presque glissant.
C'était... Alors, moi, je voudrais qu'on prenne les choses dans l'ordre parce que c'est assez étonnant la manière dont il démarre l'interview et il fait référence à une petite phrase qu'il a prononcée en 2018 lors d'un déplacement au Danemark.
Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être naïf. Ce qui est ici possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que.
Voilà, le Gaulois réfractaire Louis Dragnel, il commence l'interview comme ça en disant... J'ai sans doute été mal compris parce que le Gaulois réfractaire, je parlais aussi de moi, président de la République, Emmanuel Macron.
Alors bon, c'est intéressant parce que ça fait 3 ans qu'il traîne un peu ce boulet au pied. Et effectivement, à l'époque, ça avait beaucoup heurté. Même, il y avait plein de gens qui avaient été choqués.
Alors qu'au demeurant, il a plutôt raison.
Qu'à l'étranger,
que le
président parle de son propre peuple à l'étranger de cette manière-là,
c'est des
manières qui sont assez peu courantes de la part d'un chef de l'État, d'ailleurs, quel qu'il soit.
Et donc, il parle de notre belle névrose cette fois-ci.
Voilà. Et donc là, pour l'enjeu pour Emmanuel Macron, clairement, je suis assez d'accord avec l'analyse de Sophie Dravinel. Là, clairement, c'est un entretien de présidentiel, première chose. Deuxième chose, il essaye de faire quelque chose que peu de présidents sont parvenus à faire, c'est-à-dire essayer de dresser une sorte de bilan, au moins conceptuel, sur l'état de la France, sur la vision que lui porte de l'histoire, de la complexité de l'histoire, et avec beaucoup de paradoxes. Et je vous rejoins une nouvelle fois, Sophie Dravinel, par exemple... Il explique qu'il va assez loin. Il revient aussi sur la polémique au sujet du maréchal Pétain, au sujet de Charles Maurras.
Oui.
Donc, et il essaye de montrer cette, qu'il assume cette histoire équilibrée. Pour expliquer, rentrer un tout petit peu dans le détail sur maréchal Pétain, c'était lorsqu'il était en déplacement à Verdun, lors de ce qu'on appelait la tournée mémorielle. Il avait expliqué entre les lignes, hein, parce que je ne me souviens pas des mots exacts,
qu'on
pouvait à la fois saluer le soldat et
de la Première Guerre mondiale,
la guerre de 14,
et condamner le rôle qu'il avait eu pendant la collaboration.
Exactement. Donc il y a ça, et puis de l'autre côté, donc il dit qu'il faut assumer l'histoire dans sa globalité, et de l'autre côté, chose très surprenante, il s'inscrit comme l'homme blanc qui est privilégié, et donc là pour le coup il n'est plus du tout dans une vision d'unifier la société, mais il se met dans une catégorie, et donc ça, il considère de cette manière-là qu'effectivement il y a d'un côté les blancs, de l'autre côté les noirs. Alors on voit son intention, l'idée c'était de parler à un public justement qui est blessé, notamment les noirs qui se sentent pas suffisamment considérés, pas suffisamment respectés ou même discriminés dans la société.
Il parle en fait des fractures de la société à travers les origines.
Oui, mais alors ce qui est intéressant, c'est que dans un cas, il essaye d'avoir une vision très globalisante et dans l'autre, il fracture, il assume qu'il y a deux camps.
Mais c'est toute la subtilité de ce président qui veut marcher sur deux pieds. Ou les paradoxes. On continue d'en parler dans quelques secondes. On est contraint de marquer une nouvelle pause. 18h47, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, toujours le débat des grandes voix du mardi 18h49 avec Éric Scholl, directeur de la rédaction de L'Express, qui a réalisé donc cette grande interview du président de la République qui est à découvrir demain dans vos kiosques. Sophie Dravinel, grand reporter au service politique du Figaro, et Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Éric Scholl, moi je voulais revenir sur quelque chose qui m'a frappé. Je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais je trouve qu'il y a un petit côté un peu défaitiste dans cette interview sur le constat de cette France qui s'interroge, comme s'il avait pris conscience que les Français n'avaient pas forcément la même vision que lui de la France. Et je trouve que ça saute aux yeux quand on le lit dans la longueur.
Je crois que c'est même d'ailleurs sur le point de départ de cet entretien, c'est son constat du doute. Il parle d'un doute existentiel chez les Français. Et c'est là où on n'est plus du tout en 2017. C'est que tout d'un coup, il a pris conscience qu'effectivement, les Français doutent. Il y a cette idée de déclassement qui revient dans son discours. Et qu'au fond, les ressorts, par exemple, l'enjeu européen ne suffit pas pour les Français. Et en fait, il construit son discours autour de cette idée du doute, des temps. Alors il dit ces tensions sont créatrices. Néanmoins, il voit bien à quel point il n'a pas réussi pour l'instant à les réconcilier, ces différentes Français. Et il faut leur redonner un narratif. C'est pour ça qu'il utilise beaucoup de mots autour de la nation. Le mot nation revient au moins une dizaine de fois sur l'idée de souveraineté. Et là encore, on retrouve un peu en même temps, souveraineté européenne, souveraineté nationale. Et il n'arrive pas toujours à trancher.
Parce qu'il a été élu sur un élan et l'idée d'un accomplissement personnel. C'est un optimiste résolu, le président Macron, qui pensait que le pays le suivrait derrière dans cet élan. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. Et il y a peut-être des petits moments tout au long de ces 3 ans et demi qui illustrent ce décalage entre les Français et entre le président de la République, Emmanuel Macron. Je voudrais vous faire partager deux de ces moments qui ont frappé évidemment les esprits. Le premier, c'était en juin 2017, les gens qui ne sont rien, souvenez-vous.
Ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite, parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
Voilà, les gens qui ne sont rien. Et puis deuxième extrait, un an plus tard, c'était aux Journées du patrimoine, à côté de Montparnasse, une gare, en 2018, il avait dit ceci.
Vous êtes inscrit à Pôle emploi ?
Ouais, il n'y a rien.
Mais vous voulez travailler dans quel secteur ?
De base, je suis horticole et j'ai envoyé partout dans les mairies, ils ne prennent pas.
Si vous êtes prêt et motivé, dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler.
Voilà, deux visions de la France. La vision macronienne qui est « il n'y a qu'à faucon » et tout est possible. Et puis, la réalité des Français. Je trouve que ça respire dans cette interview parce qu'on a le sentiment que le président de la République, ça y est, a compris cette dichotomie entre sa vision de la France et peut-être celle des Français.
Le paysage politique et économique a aussi totalement changé. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il s'est fait élire sur un programme de réforme économique, de libéralisme et de libération des énergies, etc. Et tout ça, ça paraît très très loin. Ce qu'on vient d'entendre à l'instant, ça nous paraît extrêmement loin. Il a pris conscience par les 3 crises que j'ai soulignées tout à l'heure, à quel point les divisions étaient très ancrées et qu'il n'allait pas les réparer. Il le dit lui-même, on ne va pas les réparer sur un... Mais vous savez, il dit quand même des choses importantes. Il est parfois très critique. Il est très critique sur la bureaucratie française, sur l'administration, sur le fait que... Il est critique aussi sur le fait qu'on légifère trop. pourtant on continue à le faire, et sur le fait qu'on n'est pas assez dans l'action. Il a oui. ce terme d'action, et c'est là où on voit un programme se dessiner, ou quelque chose qui ressemble à un programme.
Sophie Dravinel.
Oui, absolument, et on le voit, parce que quand il parle de doute, il parle aussi du fait que c'est une énergie politique très rare, et donc on a le sentiment que lui veut chevaucher ce doute pour partir et essayer de récupérer quelque chose. Et là où vous parlez effectivement de ces moments où il y a eu vraiment des blancs hein, avec les Français, il y a eu aussi quand même, peut-être c'est ce qu'il a en tête, ce moment où il est allé à la rencontre des Français à la suite de la crise des Gilets jaunes, toutes ces rencontres qu'il a faites, il y a vraiment pris beaucoup de visiblement de force, il y était bien. Et on ne sait pas du tout ce que ça va devenir. On ne sait pas ce que sont devenus ces cahiers de doléances.
Il n'est jamais aussi bon que dans l'adversité. Hein.
Mais voilà.
et là, c'était le
et
cas.
Là,
on braque chemise devant des centaines de citoyens.
Et ça marchait très bien. Après,
ça marchait très bien.
Le résultat, je ne sais pas.
Alors, il y a une deuxième partie de cet entretien qui sera publiée demain. Est-ce qu'on peut avoir quelques petits éléments en exclusivité, mon cher Eric ?
Oui, écoutez, dans cet entretien, la deuxième partie, il parle des intellectuels. Hein, et il est d'ailleurs très critique sur les intellectuels. Il leur reproche de ne pas avoir su penser à un avenir français dans ces années de crise, dans ces dernières années de crise. Il s'en prend aussi aux élites économiques, à qui il reproche finalement de s'être trop livré à la mondialisation et de ne pas avoir su rendre ce qu'ils ont appris de la mondialisation en France. Et donc, c'est des critiques assez fortes hein, oui. sur deux types de populations de dirigeants, d'élites aujourd'hui. Et je pense que ça va permettre d'alimenter, de continuer à alimenter à la fois la réflexion,
c'est
le débat.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est l'aveu d'échec de la stratégie du ruissellement, ce qu'on comprend dans les mots que vous utilisez. Louis, peut-être.
Je pense que pour beaucoup de Français, non, mais c'est très intéressant ce que vous dites justement sur ce sujet. Pour beaucoup de Français, c'est impossible d'entendre ce que dit le président, parce qu'ils se disent, en fait, le diagnostic qu'il fait maintenant, c'est celui qu'on faisait nous au moment où il a été élu. Et donc, implicitement, forcément, les gens se disent, mais il s'était complètement gouré de diagnostic. C'est-à-dire que la théorie du ruissellement, l'émancipation uniquement par la volonté, on voit bien, et les Français le voient bien, que ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas juste vouloir pour pouvoir. Et puis, je pense que il y a aussi beaucoup de gens qui finissent par se dire, en fait, il a fallu qu'il y ait la crise des Gilets jaunes plus la crise sanitaire pour que le président puisse concevoir en fait, que tout le monde n'est pas comme lui. Tout le monde n'est pas dans cette espèce de soif et de cet accès à plein de possibilités et que la vie n'est pas si facile que ça. Et je pense qu'il y a une vraie leçon d'humilité qui est imposée à tous en ce moment, c'est sur la crise sanitaire. Oui. Vous voulez vous lancer dans la restauration, bah vous vous heurtez à une réalité qui est que vous ne pouvez pas le faire.
Dernier mot, Eric Scholl, et j'invite tous les gens qui nous écoutent à acheter l'Express demain pour découvrir ce grand entretien, évidemment chez vos buralistes et dans les kiosques. Comment l'avez-vous senti, le président, sur un plan peut-être plus personnel ?
Écoutez, donc c'est Laureline Dupont qui l'a rencontré. Elle a vu d'abord un homme fatigué parce qu'il était touché par le Covid, mais au fur et à mesure de l'entretien, il s'est réveillé. Enfin, autant il a commencé un peu fatigué, il a fini l'entretien parce qu'il est complètement investi sur ces questions. Et il y a une chose dedans qui est revenue en permanence, c'est cette idée, vous en parliez à l'instant, de défaitisme. Lui, il refuse l'esprit de capitulation qu'il observe autour de lui, et c'est ce qui l'anime. Il a cette force qu'on doit lui reconnaître, c'est-à-dire une force, une volonté oui. d'action, et de politique, c'est-à-dire on voit bien que derrière il y a quand même une année 2022 qui arrive bientôt.
Et c'est à découvrir donc demain dans l'Express. Merci Eric, merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du mardi. 18h57, dans un instant le journal et le débat sur le grand business de la seconde main. A tout de suite.